Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi politique. Au menu de cette émission, un président en pré-campagne et face à lui des manifestations en pagaille sur la loi travail, contestation sociale et fronde politique au Parlement et à l'extérieur. On a eu hier une nouvelle carte postale de l'ex-ministre Arnaud Montebourg sur tous ces sujets. Ce soir, nous recevons Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans ce studio également, Roselyne Fèvre, France 24, Lilian Alemania, Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, sixième jour de manifestation. Aujourd'hui, des milliers de personnes dans la rue, grève dans les transports, grève illimitée à la SNCF, désormais chaque mercredi et jeudi, arrêt de travail reconductible chez les routiers. Alors, sur ce climat, cette contestation sur la loi travail, voilà ce que le président ce matin disait sur Europe 1.
Cette loi, elle va passer. Elle va passer.
Vous ne céderez pas.
Je ne céderai pas parce qu'il y a eu trop de gouvernements. Je ne vais pas prendre la liste. Trop de, y compris de ceux qui font quelques critiques en ce moment, il y a eu trop de gouvernements qui ont cédé, et d'où l'état du pays que j'ai trouvé en 2012, pour que moi-même, dans des circonstances qui ne sont pas faciles, je puisse céder dès lors qu'un compromis a été trouvé, un équilibre a été obtenu, que les syndicats réformistes sont derrière ce texte et qu'il y a une majorité de socialistes qui sont en faveur de le voter.
Alors, message entre autres à la rue, on l'a compris, ces trucs qui rêvent d'un nouveau CPE. Hein, je rappelle, le contrat première embauche défendu par Dominique de Villepin en 2006 n'est jamais appliqué. Le quotidien régional Ouest-France, aujourd'hui, à propos du climat social, parle de climat quasi-insurrectionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, vous aussi, vous ne pensez pas qu'il y a quand même un risque, malgré ce que vient de dire le président, un risque de coalisation de tous ces mouvements entre eux ?
D'abord, ils ont des raisons différentes, ces mouvements. Je vois bien qu'aujourd'hui, quelques syndicats qui ont vu la pression qu'ils mettaient dans la rue baisser ces dernières semaines. Il y a eu, à chacune des manifestations, moins de manifestants. Moins de manifestants et plus de casseurs. Et j'y reviendrai dans quelques minutes. Et donc je vois bien que l'on est en train d'essayer de prendre les secteurs d'activité qui peuvent avoir ce que j'appelle l'effet levier bloquant le plus fort possible. Essayer de se dire qu'avec un certain nombre de manifestants, de syndicalistes, on peut réussir à paralyser notre pays. Nous, nous sommes ouverts à toutes les discussions. On ne peut pas bloquer pour bloquer. Et la vraie question, puisque j'ai encore rencontré durant ce week-end quelques personnes qui avaient manifesté, je leur ai demandé pourquoi. Toutes les raisons qui m'ont été données étaient fausses, ne concernaient pas le texte que nous avons voté à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis que le droit de manifester, il doit être total. Le droit de casser, il doit être égal à zéro. Et il faut, bien entendu, punir ceux qui font cela. Mais pour le reste, si ces manifestations baissent d'intensité et si l'on est dans une gradation un peu plus forte en matière de volonté de blocage, c'est bien parce qu'il n'y a aujourd'hui que de mauvaises raisons de vouloir bloquer ce texte.
Roselyne Fèvre.
Alors justement, si vous dites que ce n'est pas une manif contre cette loi travail, puisqu'en tout cas vous ne trouvez pas d'argument, est-ce que ce n'est pas une manif contre François Hollande, le traître, on va dire un peu le félon, hein, qui n'a pas fait la politique pour laquelle il a été élu?
Mais moi, je réfute point par point.
Est-ce que c'est pas contrôlé ?
Je vois bien qu'il y a aujourd'hui une partie de cette gauche qui n'a d'ailleurs rien soutenu depuis le début, qui dit que ce que fait François Hollande n'est pas de gauche. Nous nous assumons de faire une politique qui soit à gauche, et d'ailleurs la meilleure des preuves aujourd'hui. Je sais que personne n'aime à comparer parce que ça demande de travailler un peu, mais enfin, la politique qui est menée par la droite, elle commence à être connue. On en rediscutera peut-être dans les minutes qui viennent. Elle n'a rien à voir avec ce qui est fait aujourd'hui. Elle n'ouvre aucun droit nouveau demain pour les salariés. Elle ne permet pas à l'investissement public de prospérer. Elle fait baisser le nombre de fonctionnaires là où nous avons essayé de l'augmenter quand il y avait des besoins. Pas l'augmenter pour l'augmenter. L'augmenter sur l'éducation, sur la sécurité, sur la justice. Et donc il y a des politiques profondément différentes. La nôtre est profondément différente de celle qui a été menée pendant 10 ans. Et elle est profondément différente de ce qui est proposé aujourd'hui par la droite. Est-ce que ça suffit à la qualifier de gauche ? Non, il faut la regarder en plus, point par point. Et moi, j'assume tout ce que nous avons fait depuis 2012 comme étant une politique de gauche réformiste que je suis fier de défendre aujourd'hui. Et ce n'est pas cette partie de la gauche radicale qui ne nous soutient plus depuis des années qui va me faire penser le contraire.
Mais les routiers, par exemple, qui viennent de rentrer dans le conflit, eux, disent disent que les accords d'entreprise vont faire qu'ils perdront des protections parce qu'avec le jeu de la concurrence, notamment sur leur secteur, les accords de branche désormais ne les protégeront plus. Ça, vous pouvez l'entendre.
Mais bien entendu que je peux l'entendre et qu'au cours des lectures parlementaires, je peux regarder les professions qui peuvent être particulièrement touchées, les routiers et notamment la fédération CGT des routiers, une des fédérations les plus importantes, se féliciter il y a 9 mois du travail qui a été fait pour ce secteur par le gouvernement et notamment de ce que nous avons fait sur les travailleurs détachés qui venaient tailler les croupières à nos travailleurs et à nos salariés. Nous avons mis en place une réglementation parce que ça aussi, c'est être profondément de gauche que de faire en sorte d'éviter qu'il y ait ce dumping et de favoriser une forme d'harmonisation et de ne pas laisser faire sur notre territoire ces pratiques. Eh bien, aujourd'hui, sur les accords de branche, je pense que c'est un secteur particulièrement exposé demain à des accords de dumping social. Il faut donc regarder. Moi, j'ai demandé au rapporteur Christophe Sirug, dans l'optique des nouvelles lectures qu'il va y avoir, de me dire précisément s'il y a quelque chose à faire
alors,
sur cette profession des routiers.
Et en tout cas, une de ses propositions juste avant qu'on applique le 49.3, qui était de dire que quand un accord d'entreprise était moins 10 ans que l'accord de branche, ça ne serait plus possible. En l'occurrence, ça n'a pas figuré dans la version qui a été soumise au 49.3.
Non, il y a des protections qui sont mises dans le texte du gouvernement sur la façon dont les branches peuvent contrôler a posteriori les accords qui sont passés dans les entreprises. Nous avons essayé d'imaginer un dispositif a priori qui était difficile à mettre en œuvre et qui devait faire l'objet d'un compromis pour réunir tout le groupe socialiste. Ce que l'on appelle les frondeurs ont refusé ce compromis comme n'allant pas assez loin. Je ne vois pas d'ailleurs comment est-ce que l'on pouvait aller plus loin. Donc aujourd'hui, cette question relève de la navette parlementaire et puisqu'il y avait des difficultés à la mise en œuvre, elle n'a pas été intégrée à la première mouture du texte et la réflexion. La réflexion demeure en tout cas.
Les frondeurs proposaient tout simplement qu'un accord d'entreprise ne puisse pas être moins 10 ans par rapport à un accord de branche. C'était tout simple. Et le gouvernement a refusé ce principe tout simple.
Oui,
parce qu'il donne la priorité aux accords d'entreprise, justement.
Aux accords d'entreprise avec le contrôle des branches, puisque les branches, dans le dernier amendement...
A posteriori.
Dans un premier temps, dans un dernier temps de discussion, c'était a priori, puisqu'il y avait la possibilité pour une branche de dire si un accord lui semblait aujourd'hui porter les germes de ce qu'on appelle un dumping aujourd'hui sur la branche d'activité. Et il y avait une arme nucléaire à ce moment-là pour les syndicats, pour les accords de branche, puisqu'ils pouvaient retirer le mandatement à celui qui avait négocié l'accord. Et donc, sans mandatement, il n'y avait pas d'accord possible.
Mais si vous avez peur qu'il y ait du dumping social, pourquoi ne pas mettre comme règle qu'un accord d'entreprise ne puisse pas être moins 10 ans qu'un accord de branche?
Mais parce que sur une période qui peut être une période limitée, il peut y avoir besoin d'un accord d'entreprise. Moi, j'ai été confronté, Monsieur Emmanuel, ces derniers mois, à plusieurs salariés et plusieurs dirigeants d'entreprises qui sont venus me voir avec leurs salariés en me disant que leur accord d'entreprise, parce que j'avais demandé à recevoir des entreprises qui avaient passé des accords, et en me disant que la façon dont elles avaient passé l'accord, qui pouvait sembler défavorable à leurs salariés, avait évité le plan social. Et donc, moi, je pense que dans une entreprise, il doit y avoir la possibilité d'une discussion. Il peut y avoir la possibilité d'un accord quand il y a une situation difficile, parce que je préfère l'accord d'entreprise qui serait, pendant un certain temps, dérogatoire à un accord de branche, plutôt que le recours au plan social d'entreprise qui est aujourd'hui beaucoup trop la pratique quand il y a une difficulté. Et là encore, c'est un élément. On est dans un pays où, quand il y a des difficultés, c'est plutôt vers le plan social que l'on se dirige. Bien moi, je souhaite que l'on se dirige vers une autre discussion à l'intérieur de l'entreprise, qui est de prendre la mesure des difficultés, de pouvoir avoir des mesures qui sont librement négociées, acceptées, et qui peuvent avoir une validité dans le temps, parce que moi, je ne suis pas pour que l'on valide sur du long terme, c'est d'ailleurs pas le cas des accords d'entreprise, de valider sur des longs termes des éléments qui soient dérogatoires par rapport à ce que la branche a prévu.
Juste, on parle régulièrement dans la majorité de ce fameux droit à manifester, sauf que des interdictions de manifester ont été distribuées. C'est ce qu'on peut faire désormais avec l'état d'urgence. Les associations de défense des droits de l'homme parlent de dévoiement dans ce cas précis. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Non, moi, je fais une entière confiance, et donc je ne traite pas de cas particulier, donc je ne peux donner que le sentiment général. J'ai une entière confiance aujourd'hui dans le ministre de l'Intérieur et dans ses services pour d'abord faire en sorte que le droit de manifester soit garanti alors que nous sommes en état d'urgence. Et il y a toujours une menace qui pèse sur notre pays, on l'oublie. Mais moi, je ne souhaite pas que l'on s'en rende compte uniquement quand il y a des problèmes, quand il y a des attentats. Donc aujourd'hui, il y a une menace encore sur l'Europe, non, mais particulièrement.
Les interdictions de manifester n'ont pas été distribuées là-dessus.
Oui. Je vous dis d'abord le contexte. Et dans ce contexte où il y a toujours l'état d'urgence, il doit y avoir une précaution pour que les manifestations se passent bien. Ensuite, s'il y a un certain nombre d'individus qui sont interdits de manifester ou qui ne peuvent pas le faire, j'ai une totale confiance dans les services de Bernard Cazeneuve pour savoir et pour qu'il puisse dire à quoi cela est dû.
D'accord.
Donc je n'ai pas le moindre problème avec ça.
Bon, bras de fer dans la rue, bras de fer dans la majorité. Position de fermeté, on l'a compris. Le texte revient à l'Assemblée. La menace du 49-3, cette fois-ci, elle est vraiment claire. Est-ce qu'il y a encore sérieusement une discussion possible pour le retour à l'Assemblée du texte sur le retravail ?
Mais bien entendu, il y a une discussion. Là-bas, c'est le texte que nous avons adopté en première lecture. S'il y a des améliorations dues à ce que l'on appelle la navette parlementaire. D'abord, vous savez, le texte tel qu'on va le voir revenir va être intéressant parce que le travail de la droite à l'Assemblée nationale va être très différent du texte que nous avons adopté. On va voir la différence entre le texte qui est sorti de l'Assemblée et le texte qui va revenir du Sénat. On va voir la différence, permettez-moi de vous le dire, entre un texte de gauche et un texte de droite. Et le texte que l'on va voir revenir va être un texte de droite. Donc nous remettrons à l'endroit le texte qui va nous arriver. Là-bas, ce sera le texte qui a été adopté dès la première lecture. S'il y a des améliorations qui permettent de faire en sorte que le texte soit plus efficace, ou d'élargir la majorité sur la base d'un compromis que nous recherchons toujours, oui, j'y suis ouvert. Mais sinon, le texte sera adopté avec les mêmes modalités qu'en première lecture.
Donc, les fraudeurs auront compris. Ce matin, en réunion de groupe, le Premier ministre disait que lui ne voulait pas de sanctions pour ces fraudeurs, rappelons-le, qui ont tenté de réunir suffisamment de signatures pour censurer le gouvernement. Est-ce que vous êtes exactement sur les mêmes lignes ?
Ça fait une semaine, j'ai été, je crois, le premier d'ailleurs à le dire. Ça fait une semaine que ceux qui parlent des sanctions, c'est les fraudeurs et les journalistes. Parce qu'il y a... le premier porte-parole du groupe, c'est le président de groupe, et j'ai été très clair dès le moment où les choses sont sorties. Et donc, il y a un film qu'il faut entretenir pour les fraudeurs. Et ce film, si l'on pouvait avoir des sanctions pour qu'ils deviennent les martyrs de cette majorité, et qu'on puisse... Non, il n'y a pas besoin de sanctions. La sanction, ce matin, au groupe, c'était la tonalité des députés socialistes, qui étaient tristes et en colère vis-à-vis de ceux qui avaient voulu censurer un gouvernement de gauche, vis-à-vis de ceux qui étaient prêts pour faire cela à s'allier avec la droite pour faire cela. Parce que c'est quand même cela la réalité aujourd'hui de ces frondeurs. C'est que dans l'hémicycle, pour essayer de battre la gauche, ils s'allient avec la droite sur chaque fois qu'ils le peuvent, les amendements où ils le peuvent. Donc ça, c'est la réalité. Et c'est vrai que cette réalité, elle n'appelle rien d'autre qu'à la responsabilité. Pour moi, c'est pas la sanction qui va demain faire les choses. C'est la responsabilité et s'agissant de ce qu'ils font et de ce qu'ils pensent, l'irresponsabilité dans laquelle ils se placent.
Mais est-ce que l'erreur de François Hollande, c'est de ne pas avoir d'avoir sanctionné ces frondeurs dès le début, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 ans maintenant, c'est-à-dire tuer dans l'œuf la contestation dès le début? En fait, il a laissé faire au nom du débat, la culture du débat chez les socialistes.
Je pense que cela aurait, je veux bien penser que cela aurait changé l'ambiance, encore que en sanctionnant.
Vous étiez plutôt partisan de ça dès le début.
J'étais plutôt.
Je me souviens de.
J'étais plutôt partisan pour qu'au début on rappelle qu'il y avait des règles, parce qu'un groupe, ça ne fonctionne qu'avec des règles. Et moi, j'avais, dès le début, je pense, saisi le fait que ceux qui étaient minoritaires ne défendaient pas simplement un point de vue. Ils étaient là pour faire en sorte que leur point de vue soit adopté. Et que s'il n'était pas adopté, à ce moment-là, ils ne suivaient plus. Ce qui est quand même contraire à tous nos principes de fonctionnement. Nos principes de fonctionnement, et notamment au Parti Socialiste ou à gauche, c'est que la discussion est totalement libre, mais que l'on se réunit à la fin. Or là, depuis 2 ans, et je le regrette, nous assistons au fait qu'une minorité nous dit « Ben voilà, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on ne votera pas avec vous ». Et ils l'ont fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et maintenant très régulièrement. Bon, peut-être aurions-nous dû arrêter ça plus tôt. En même temps, là où je veux relativiser les choses, c'est que cela a créé une mauvaise ambiance, que cela a créé un brouillard sur ce que nous faisons, mais que cela ne nous a en aucune façon empêcher d'avancer.
Alors ça sent quand même très au-delà de la mauvaise ambiance, parce que sont nombreux les députés à s'ouvrir du très mauvais climat au sein du groupe, plus beaucoup venir non plus aux réunions hebdomadaires, à se dire même que au-delà de la question politique, maintenant on est passé sur le plan humain, c'est extrêmement dégradé. On a du mal à voir aujourd'hui comment vous allez finir ensemble la mandature.
Ah mais moi je finirai avec ceux qui veulent être là et je sais qu'il y a dans le groupe 250 députés qui veulent finir la mandature ensemble. Après, s'il en manque, et si les 35 à 40 qui aujourd'hui veulent se retrouver contre les textes, ne les votent pas, décident, je ne ferai rien pour les retenir. En tout cas, je ne ferai rien. J'aurais bien pu faire il y a plusieurs mois des choses pour les retenir, mais là, je vois que ça ne sert à rien.
Parce que qu'est-ce que vous allez pouvoir faire jusqu'à la fin de la mandature?
Mais tout simplement.
Tout est bloqué.
Mais tout simplement. Mais il n'y a rien. Mais c'est là que votre sens de l'observation connaît un problème. C'est qu'il n'y a rien qui n'ait pas été fait, qui ne soit pas fait. Ils ne bloquent rien. Ils sont inutiles. Ils sont
parce que vous avez le 49-3.
Mais le 49-3, nous ne l'avons adopté que sur deux textes, sur tous les autres textes.
Sur les textes économiques et sociaux majeurs du quinquennat.
Peut-être, mais les autres textes, nous arrivons à les voter. Les projets de loi de finances, ils sont votés. Le budget a été voté, malgré qu'il y ait des désaccords.
Et parce que sur ces deux textes-là, vous avez non pas seulement les frondeurs et une vingtaine de socialistes qui ne votent pas, comme vous avez dit, sur les textes budgétaires, ils ne votent pas, mais vous avez une majorité. Sur ce texte de la loi travail, comme sur la loi Macron, il y a des députés, là je prends le cas par exemple de Patrick Mennucci, qui était plutôt proche de Manuel Valls, ou de Philippe Martin, qui est un ancien ministre, ces deux députés-là ont dit qu'ils ne voteraient pas ce texte-là.
Oui.
Donc ça dépasse simplement le cadre de votre aile gauche.
Oui, j'ai discuté avec ces deux députés. C'était une position au début du texte. Ils m'ont dit tous les deux que les éléments qu'ils recevaient auraient pu les amener, en tout cas qu'ils n'auraient pris leur décision qu'au dernier moment. Et j'aurais bien entendu tout fait pour les convaincre. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que la politique qui est menée pour la France sur chacune des dimensions, que ce soit de l'éducation nationale à la défense, en passant par les questions économiques et sociales, elle continue, elle n'est en rien bloquée. Alors, quelle est plus de difficulté à se faire entendre? Parce que ceux qui attaquent les premiers viennent souvent de notre camp. Je vous l'accorde. Est-ce que c'est agréable? Non, ce n'est pas agréable. Est-ce que cela nous empêche d'avancer? Absolument pas, du tout. Du tout. Et je m'aperçois en vous disant ça qu'une nouvelle fois, depuis un quart d'heure, on est en train de faire de ces 25 à 40 députés l'alpha et l'oméga de la gauche aujourd'hui, alors qu'en fin de compte, ils n'empêchent rien, qu'ils n'ont pas de débouché politique. C'est d'ailleurs un de leurs problèmes.
Avec Arnaud Montebourg, un peu, peut-être.
On verra bien. Moi, le président de la République, il a quelque chose qui est rempli aujourd'hui en termes d'action. Moi, je ne suis pas pour l'alternative du vide, l'alternative de l'emphase, l'alternative des choses creuses qui peuvent réunir à un moment donné ceux qui ne savent pas là où ils vont. Et donc, quand il y a un président de la République qui a un bilan d'action, comme l'a François Hollande, je ne comprends pas, ou je comprends trop bien, par la volonté d'empêcher, par la volonté d'essayer de fragiliser ce qui est fait aujourd'hui, mais je pense que ça n'a pas de lendemain.
Juste une petite chose, on parle de ce qui se passe avec les députés. Libération faisait le reportage hier, il y a une section du Parti Socialiste, c'est en Bresse-Nord, qui a carrément fait scission. C'est un peu du jamais vu, qui filtre les emails de Solferino. On se dit que...
Qui ne donne pas les cotisations.
Voilà, l'extension du domaine de la fronde aussi au Parti Socialiste, c'est pas un mauvais signal quand même, quand même la base ne veut plus entendre ce que dit Paris.
Mais il peut y avoir des bases, en tout cas là encore, ce n'est pas la façon de fonctionner dans toutes les fédérations.
C'est une section proche d'Arnaud Montebourg.
Mais bien sûr, et donc à partir du moment où les congrès ne règlent rien, et où l'on est dans un parti qui fonctionne en congrès permanent, où chaque assemblée générale de section est une assemblée générale de congrès, où chaque réunion du groupe sur des sujets particuliers devient une réunion de congrès. On n'arrive plus, surtout qu'une réunion de congrès, c'est destiné à se compter, mais quand les minoritaires, qu'ils le sont quand même à chaque fois depuis maintenant 2 ans, n'arrivent pas à se plier à la règle majoritaire, ça ne sert à rien.
Eh bien, on en reparle. En tout cas, la majorité dans tous ces États, dans la deuxième partie de Mardi Politique, ça sera juste après les informations avec Bruno Leroux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi Politique, deuxième partie avec notre invité Bruno Leroux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Rosine Fèvre, France 24, Lilian Alemania, Libération. On va bien sûr revenir sur la majorité dans tous ces États et cette France qui doute. Juste d'abord une question sur presque l'agenda du Premier ministre. Demain, mercredi, il sera dans sa ville d'Evry, en banlieue parisienne. C'est le premier d'une série de déplacements annoncés avant l'été. Est-ce que c'est bien son rôle de Premier ministre de faire ce type de déplacement?
Mais bien sûr. Moi, je souhaite que tout le monde soit en campagne. Du président de la République jusqu'à tous les militants du Parti socialiste. Je souhaite que nous soyons tous en campagne. Alors, pour le président de la République, c'est à lui d'en déterminer les différentes modalités. Mais j'observe que ce matin, moi, j'ai vu un président de la République en campagne pour les résultats, en campagne pour son action. Ce que nous lui demandons, d'ailleurs, depuis plusieurs mois maintenant, de dire dans un rapport direct aux Français ce qu'il fait et là où il les emmène. Et c'est à nous, ensuite, de relayer le Premier ministre, le gouvernement. Moi, je souhaite que des réunions puissent être faites entre les principaux députés qui ont été rapporteurs responsables sur les textes et les ministres qui ont été concernés, que nous puissions, dans les régions, aller animer des réunions avec des socioprofessionnels, avec des militants, avec les responsables associatifs, sur tous les secteurs qui ont été impactés, qui ont été touchés. Donc, que le Premier ministre montre l'exemple régulièrement en allant défendre et expliquer ce que nous faisons, je trouve ça très bien.
Enfin, la première étape, c'est jeunesse, éducation. Les suivantes, c'est culture et innovation. Ce qu'on voit aussi, quand même, c'est que le Premier ministre cherche à changer de registre. Dans sa démarche, où il veut adoucir son image. Il y a quand même, au minimum, une part de démarche personnelle, Bruno Leroux.
Que le Premier ministre veuille montrer qu'il est complet, qu'il n'est pas simplement, alors que nous sommes en état d'urgence, sur la question de la sécurité, les questions qui touchent à nos concitoyens, je trouve ça totalement normal, d'autant plus que je sais que toutes les questions que vous me citez, la question de l'éducation comme la question de la culture, c'est des éléments sur lesquels nous travaillons très souvent ensemble, sur lesquels il a beaucoup d'intérêt. Donc pour moi, il n'y a pas de changement d'image, simplement montrer aux Français et montrer à ceux qui sont sur le terrain la réalité de l'action du Premier ministre, le fait que c'est bien lui qui détermine aujourd'hui la façon dont fonctionne son gouvernement, qu'il en est le chef, ça me semble totalement normal.
Pourtant, on reproche beaucoup dans la majorité à Emmanuel Macron de faire cavalier seul, c'est pas du tout le même type de démarche, vraiment.
Mais là, il y a... Là encore, je l'ai dit depuis le début, Emmanuel Macron, j'étais particulièrement content. Moi qui ai eu l'habitude de travailler avec lui alors qu'il était conseiller à l'Élysée, j'étais très content de le voir entrer au gouvernement parce que j'avais la certitude que la voix qui était la sienne, d'une gauche qui ne parlait pas avec les mots avec lesquels je parle là, ni avec ceux du Premier ministre, j'étais sûr et je suis toujours convaincu qu'il peut apporter. Je remarque qu'il y a eu une ambiguïté qui a été créé par la force de sa parole, la force de son installation dans le paysage politique. Et qu'on se l'ait dit, mais en fin de compte, est-ce qu'il fait ça pour lui ou est-ce qu'il fait ça pour la réussite du gouvernement et du président de la République? Moi, j'estime aujourd'hui que les ambiguïtés sont levées. D'autres me disent qu'il faut qu'ils le disent plus clairement. Emmanuel Macron est aujourd'hui un ministre de l'économie que les Français ont envie d'écouter et qui travaille pour la réussite du président de la République. C'est en tout cas la certitude que j'ai au moment où je vous parle.
Mais qui se dit prêt si François Hollande n'y va pas?
Oui, enfin, qui se dit, on ne se dit pas prêt.
En dehors du Parti Socialiste auquel vous appartenez.
Oui, mais là encore, je comprends qu'il y ait des questions auxquelles on soit tenté de répondre. Êtes-vous prêt? Serez-vous prêt? Seriez-vous prêt si le président de la République n'y allait pas? Je pense que la meilleure réponse à cela, c'est toujours de dire que si le président de la République n'y allait pas, ce serait une mauvaise chose pour le pays et pour la gauche.
Roselyne Fèvre.
Au-delà des questions de personnes, il y a évidemment la ligne. François Hollande a dit qu'il n'y avait pas aujourd'hui d'alternative à la gauche de gouvernement. On voit donc qu'il y a de gauches qui effectivement sont irréconciliables. J'ai envie de vous dire ce qui se passe. On le voit dans plusieurs pays. On voit des partis coupés en deux. On le voit aux États-Unis avec le Parti républicain, avec le Parti démocrate. On le voit en Autriche avec un Parti socialiste qui veut s'allier à l'extrême droite. On le voit donc en France avec le PS, en Espagne aussi. Qu'est-ce que vous inspire, dans le fond, ces fractures, ces crises politiques un peu partout?
Mais permettez-moi de vous dire que je ne tire pas la même conclusion de cette phrase du président de la République. Quand il dit qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui à la gauche qui est en responsabilité, il n'acte pas le fait qu'il y aurait deux gauches irréconciliables. Il acte le fait qu'il y a deux gauches dans le pays et qu'il y a eu systématiquement, encore dans les trois dernières élections, une gauche qui a été majoritaire par rapport à l'autre. Et que le pire serait qu'une gauche veuille empêcher l'autre. Et que ce que l'on appelle la gauche radicale aujourd'hui, de la même façon que moi je pense que nous devons chercher des ponts avec elle, essayer d'avoir des sujets de discussion. Et si la question ne peut pas être économique et sociale, il y a des thèmes sur lesquels nous pouvons discuter. Parce que on ne peut ne pas avoir d'accord sur un certain nombre d'éléments politiques sans pour autant être opposé sur tout. Surtout que ce que je veux dire à cette gauche, c'est que si elle ne nous remplace pas, et je pense qu'elle ne nous remplacera pas, alors si nous perdons, ce sera la droite ou ce sera l'extrême droite. Et j'attends toujours que quelqu'un de gauche me dise véritablement, les yeux dans les yeux, eh bien on préfère que ce soit la droite ou l'extrême droite plutôt que vous. Parce que là, j'ai des arguments à faire valoir dans ce moment-là sur le fait que nous sommes irréconciliables si nous sommes dans ce raisonnement-là.
Mais c'est vous cherchez des ponts, mais Manuel Valls, ce matin, en réunion de groupe, disait encore le temps de la clarification est venu. Donc il ne vous rend pas service.
Mais en tout cas,
il n'est pas du tout d'accord avec vous.
Mais je pense comme lui que le temps de la clarification est venu. Mais clarifier, ça ne veut pas dire avoir des positions irréconciliables. Les choses deviennent irréconciliables quand elles sont tues. Quand on ne cherche pas à les résoudre, quand on ne cherche pas à les poser. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, pour répondre à votre première question, une confrontation avec le réel, et dans l'histoire d'ailleurs. J'étais dans une réunion il y a quelques jours en Seine-Maritime où un vieux militant est venu me voir en me disant « Pourquoi faut-il attendre que la gauche perde pour que nous valorisions son bilan dans les réunions publiques ?» Et il me dit « Moi qui ai de la mémoire, on a attendu bien après 1986 pour dire qu'on avait été fiers de ce qui a, si j'enlève la peine de mort, mais pour dire que la façon dont la gauche avait pris ses responsabilités avec ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, qui n'a juste été qu'un permis de continuer pour la gauche, d'asseoir une crédibilité à gérer le pays là où elle aurait pu être balayée d'un revers de main pour des décennies, et ainsi de suite. On n'est jamais fier au moment où l'on fait les choses, des changements que l'on incarne, parce qu'il y a toujours une partie de cette gauche qui dit « le réel, c'est la trahison ». On ne va jamais assez loin. On ne va jamais. Et c'est là, c'est quelque chose qui est très très ancien.
Gouverner, c'est trahir.
Mais moi, je pense
pour les socialistes.
Moi, je pense tout le contraire. Mais une partie de la gauche a toujours pensé que gouverner, c'était trahir, et qu'on devait et qu'on pouvait s'extraire de la réalité, c'est-à-dire essayer de bâtir du progrès, parce que je les pense sincères sur cette idée qu'il faut bâtir du progrès et que nous sommes là pour essayer de réduire les injustices autant qu'il est possible de le faire, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure éducation, tous ces sujets qui sont propres à la gauche, enfin propres à la gauche en tout cas, qui sont des marqueurs pour la gauche. Mais moi je sais aujourd'hui, à la différence de ces discours, que rien n'est possible dans l'économie qui est la nôtre, une économie mondialisée, s'il n'y a pas dans ce pays des moyens qui permettent de le faire, c'est-à-dire des déficits qui soient maîtrisés, c'est-à-dire une croissance qui soit assurée, c'est-à-dire des entreprises, un système capitaliste, un système basé sur des gens qui investissent de l'argent dans le système productif, qui fonctionne pour créer de l'emploi. Je connais ces réalités. Et si ces réalités, nous ne les prenons pas à bras-le-corps, alors le progrès social est impossible à créer.
Mais sans cette gauche-là, Monsieur Leroux, François Hollande ne serait pas président de la République, puisqu'une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté François Hollande en 2012. Une partie aussi des dirigeants socialistes, à un moment donné, se sont dit qu'on pouvait aller voir du côté du centre, des centristes, au moment de la loi Macron. On a vu Manuel Valls tendre la main aux centristes. Ils n'ont pas répondu présent. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez besoin de cette gauche-là pour passer, si ce n'est le second tour, le premier tour de l'élection présidentielle. Alors, comment vous allez leur parler à ces électeurs-là?
Mais d'abord, en valorisant ce qui est fait. C'est pour cela que j'ai lancé une campagne à l'Assemblée nationale qui s'appelle « Du progrès en plus ». Et que nous avons décliné avec 60 mesures qui ont été prises depuis le début du quinquennat. Et depuis que je distribue ces petits éléments qui sont d'abord sous forme de cartes postales, mais destinés à faire réfléchir. C'est marrant parce que chaque fois que je distribue une carte postale, on me dit « Ah, ça, c'est bien !» C'est-à-dire que sur chacune des mesures individuelles, nous sommes crédités. Quand j'explique aujourd'hui le compte personnel d'activité, quand j'explique la pénibilité, quand j'explique le départ en retraite à 60 ans pour les carrières longues, quand j'explique la garantie pour les femmes sur les pensions alimentaires, quand j'explique le déficit de la sécurité sociale sans aucun qui baisse, sans aucun déremboursement et avec même l'ouverture de droits supplémentaires, on me dit « Ah oui, c'est différent de ce qui se passait avant ». Et donc chacune des mesures est créditée et pourtant, globalement, nous n'avons pas réussi à créer cette idée que dans une période difficile, nous avions, par une politique de gauche, créé pour tous nos concitoyens du progrès en plus. C'est une question qui m'est directement retournée à chaque fois que je constate ça, parce que je me dis que nous n'avons pas été capables de faire ce travail.
Le président a dit ce matin qu'un bilan ne suffisait pas et qu'il fallait créer un espoir.
Mais bien entendu, et donc l'espoir, ça doit être créé par la façon dont le président de la République donne de la cohérence à ce que j'appelle le redressement du pays. Moi, je n'ai pas été élu, ou tout au moins, je ne me suis pas engagé en politique pour baisser les déficits, ni même pour augmenter la croissance. Je sais que c'est un préalable à ce que je veux faire, mais ce n'est pas l'élément du bilan qui peut porter projet. Ce n'est pas ça le projet. Le projet, c'est qu'à partir de ce pays, ou à partir du moment où notre pays a retrouvé ses fondamentaux économiques, comment l'installons-nous dans une politique de réduction des inégalités ? Comment retissons-nous un tissu social qui redonne envie de vivre ensemble dans un pays qui est en train d'éclater, qui a, enfin en tout cas qui est sous la pression de force qui l'amène à l'éclatement. Tout cela, ça forme, je crois, le projet des 5, des 10 prochaines années qui doit être maintenant dressé par le président de la République comme étant le résultat de l'action qu'il a menée depuis 5 ans.
Il y a un sujet symbole pour la gauche, c'est d'ailleurs pas que, hein, c'est les salaires des patrons. François Hollande, ce matin, menaçait de légiférer sur la rémunération des dirigeants d'entreprise. Il faisait notamment référence aux polémiques sur les salaires des patrons de Renault et de PSA. Est-ce que ça, légiférer, plutôt que d'en parler ou de menacer, vous ne pourriez pas le faire très rapidement ?
Moi, je l'ai dit de façon très claire il y a maintenant 2 ans, au moment où je suis en discussion permanente avec les syndicats, bien entendu, de salariés, mais aussi avec les organisations patronales. Et j'avais reçu à l'époque le MEDEF et surtout l'AFEP, qui avait les grandes entreprises, l'association qui regroupe les grandes entreprises françaises, en leur disant qu'il y avait des choses qui étaient incompréhensibles, inacceptables pour les Français, qu'il y avait des montants déraisonnables. Et que soit ils mettaient en place des procédures pour que cela ne se passe plus, soit nous légiférions. On m'avait assuré que ça marchait. Il y a plusieurs exemples qui montrent que ça ne marche pas. Moi, je suis pour que nous légiférions sans attendre. Et j'ai fait, dès cet après-midi, une réunion avec un certain nombre de mes responsables pour regarder comment, dans les textes qui arrivent, notamment peut-être la loi dite Sapin, notamment
la loi Sapin 2 sur la transparence
Sapin 2
financière.
Sur la transparence, mais peut-être comment est-ce que nous pourrions, dans un premier temps, reprendre ce qu'a dit notamment le président de la République ce matin, qui est le caractère exécutoire des décisions d'Assemblée générale. Parce que là, ce qui était choquant en même temps, dans le cas qui a été connu il y a quelques jours, c'est qu'une assemblée générale a dit que ce n'était pas possible et qu'un conseil d'administration qui s'est passé juste derrière a dit « Eh bien, tant pis, on verra ça l'année prochaine, mais on confirme, nous, la décision pour la rémunération de ce patron. » Eh bien, ce n'est pas possible et donc moi, je suis prêt à légiférer dès les prochains jours.
Sur ce qu'on peut attendre aussi sur les initiatives de gauche. Nicolas Sarkozy, dans Le Monde, daté de demain, regrette un effacement de la France en Europe. On sait que François Hollande va faire des propositions après le référendum britannique qui est fin juin, qu'il rencontre vendredi à Rome les leaders sociaux-démocrates sur ce sujet. Vous aviez signé un texte avec Jean-Christophe Cambadélis et d'autres pour une refondation de l'Union européenne. Très concrètement, est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient, des décisions, des orientations, des choses qui pourraient être faites rapidement ?
Nous avons fait cela avec Jean-Christophe Cambadélis la semaine dernière, le 9 mai, à l'occasion de la Journée de l'Europe, et avec tous les parlementaires. Nous avions réussi d'ailleurs sur ce texte à avoir tous les parlementaires socialistes. Ce qui montre qu'il y a des sujets qui ne sont pas pourtant pas faciles, mais sur lesquels nous pouvons faire les choses ensemble. Délégation au Parlement européen, elle est diverse. Délégation au Sénat, délégation à l'Assemblée nationale, et elle est composée, comme vous le savez. Premier élément. Deuxième élément, quand même, je ne laisserai pas passer une nouvelle fois Nicolas Sarkozy. Ça ressemble au discours qu'il a fait il y a maintenant une quinzaine de jours sur la défense. et où il dit que nous sommes sur la défense sans aucun respect de nos engagements avec un affaiblissement de la France.
Et lui veut augmenter le budget.
Mais que ce soit, que ce soit sur la question de l'Europe ou que ce soit sur la question de la défense, quand on compare aujourd'hui ce qu'est la position de la France en matière de respect par ses partenaires, en matière d'action, en matière de trajectoire budgétaire et de respect des engagements, ce quinquennat n'a rien à voir avec l'esbrouf et le désintérêt que marquait Nicolas Sarkozy pour ces questions Europe, affaires étrangères et de défense. Et un désintérêt qui nous coûtait cher vis-à-vis de nos partenaires. Parce que Nicolas Sarkozy avait rompu avec la tradition française qui faisait de ces questions une capacité à parler au monde, à avoir une voix qui porte. Et le désintérêt total qu'avait ce président de la République pour ces questions-là a participé à affaiblir la France. Alors je vois bien qu'il veut se rattraper depuis, mais sur la question européenne, moi je souhaite qu'il y ait des initiatives, et il faudra qu'il y en ait le 23 au soir. J'ai compris... Oui, le 23 juin, bien entendu, qui est le soir du référendum britannique sur le oui ou le non. Pourquoi le 23 juin, pour ceux qui nous écoutent? Parce que l'on voit bien que dans une campagne électorale aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons pris la précaution de faire un texte, simplement, même si sur ce texte, je vous confirme qu'avec Jean-Christophe Cambadélis et Didier Guillaume, nous allons, non pas convoquer, parce que, mais nous allons organiser une réunion avec tous les ambassadeurs européens à Paris, pour une discussion autour du texte que nous avons publié le 9 mai sur les nouvelles actions que nous pourrions faire pour l'Europe en matière de gouvernance économique, en matière de politique migratoire et de solidarité, en matière de jeunesse. Je vous donne un deuxième élément. Je réunirai à Paris, au mois de septembre prochain, tous les présidents des groupes sociodémocrates de tous les parlements européens pour que nous nous coordonnions sur une grande initiative en matière de jeunesse au niveau européen. Tant aujourd'hui, il me semble que cette dimension manque. Donc oui, bien entendu, il faut aller plus loin au niveau européen et le président de la République va prendre des initiatives.
Y compris avec les pays d'Europe de l'Est, dont une partie des partis sociodémocrates sont alliés avec l'extrême droite.
Oui, c'est un problème. C'est un problème. Donc nous sommes, vous avez raison d'attirer mon attention, parce que quand je dis que nous avons invité tous les dirigeants sociodémocrates, c'est tous les dirigeants sociodémocrates avec lesquels nous pouvons discuter. Et il y a aujourd'hui une forme de populisme qui se développe partout en Europe, mais qui prend des proportions dans un certain nombre de pays anciennement, enfin d'Europe de l'Est, sur lesquels moi je suis très 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 inquiet de ces alliances qui sont en train de se créer, du discours anti-européen qui s'y développe et de la façon dont les sociodémocrates quelquefois me semblent peu enclins à résister à cela.
Comment regardez-vous, pour revenir en France et à la droite, comment regardez-vous cette surenchère libérale des candidats à la primaire? C'est à celui qui fera le plus d'économies, à celui qui supprimera le plus de fonctionnaires. Quand on voit qu'une petite loi, El Khomri, met à feu et à sang le pays, comment imaginer, comment regardez-vous ça du côté de la droite? La casse sociale est bien pire que ce que fait François Hollande aujourd'hui.
Mais parce que la primaire, je pense, les oblige à dire la vérité sur ce qu'ils feraient. La primaire ne leur permet pas de se cacher. Ils doivent chacun dire quelles sont leurs propositions et donc essayer, je l'espère en tout cas, d'être plutôt en phase avec ce qu'ils croient juste bon pour le pays. Et j'en suis très content parce qu'en fin de compte, ce processus de primaire, on le voit bien quand on est dans l'opposition, il oblige à mettre les cartes sur la table. François Hollande, on disait bien souvent, quand il a fait la primaire et quand il a fait ensuite son programme, on disait « Ah, mais il est quand même très très en deçà de ce qu'on a connu dans les programmes présidentiels. Il n'est pas en train de promettre à tout va, il n'est pas en train de... » Oui, mais il était dans cette campagne déjà comme il est aujourd'hui. C'est-à-dire soucieux de faire ce qu'il est possible de faire, d'avoir une politique qui soit une politique sur laquelle... Et moi, c'est pour cela que je continue à dire, même si je reçois des lettres souvent me disant « mais c'est totalement le contraire », ni renoncement, ni trahison par rapport à tout ce qu'a pu dire François Hollande, et dans la primaire, et dans la campagne présidentielle. Dans son action derrière, il n'y a ni renoncement, ni trahison.
Mais votre angle d'attaque aujourd'hui, c'est de dire « la droite va faire pire ».
Mais c'est simplement ce qu'elle dit. Et d'ailleurs, c'est ce que vous-même, maintenant, vous êtes en état avec les propositions de faire régulièrement dans vos différentes publications, vos différents journaux, dire ils sont en train de mettre des idées sur la table, donc prenons-les et prenons-les au sérieux.
Et on aura le temps.
Je suis pour que l'on prenne les idées au sérieux et celles de la droite sont très sérieuses aujourd'hui et très néfastes.
Et on aura le temps d'en reparler ces prochaines semaines. C'est la fin de Mardi Politique. Merci à vous, Bruno Leroux. Merci à nos partenaires Libération et France 24.